Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Juliette L'Orphelin. À la technique ce matin, Jérôme Ragano. Son regard cette semaine sur un tableau du peintre et tapissier flamand du XVIe siècle Jan Cornelis Vermeyen, figurant un homme aux imposantes bajoues, escorté de deux animaux à l'air grave. À gauche de la lourde physionomie se tient un minuscule singe aussi discret qu'avisé, mais c'est dans le manteau de l'homme que réside l'attraction principale. Entre deux boutons émerge un chien au faciès sournois d'empoisonneur de cour. Ses sourcils se froncent de jubilation machiavélique tandis que ses pattes sont rassemblées comme celles d'un intrigant se frottant les mains pour célébrer un crime. Si vous croisez ce chien, contactez immédiatement la garde royale. Vous pouvez cependant le contempler sans danger grâce au lien que nous mettrons sur le site. Quant à l'homme le dissimulant dans son vêtement, il pourrait s'agir d'un certain Herman Van Gouda. L'enquête reste ouverte. Écriture, chant, danse, curiosité et engagement sont les satellites qui entourent notre invitée si je devais la dessiner comme un atome environné de ses électrons dans un livre de chimie. Elle grandit en Bulgarie et en Roumanie, étudie l'anglais à la Sorbonne, devient fille au père à New York, revient en France, sort des albums et s'érige en s'adonnant à ce qu'elle fait depuis petite, écrire. Son dernier ouvrage, Quand tu écouteras cette chanson, est paru en août dernier chez Stock. Il relate la nuit qu'elle a passée dans l'annexe de la maison Anne Frank à Amsterdam. L'exactitude est son arme, dit-elle. Je l'accueille avec les seuls que je possède contre le monde, du gel hydroalcoolique et une grande civilité.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Lola Lafont.
Bonjour Eva.
Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde ?
Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, même si... je ne sais pas si je dois dire même si, pourtant si. Je pense que j'ai pas mal trébuché. Peut-être comme tout le monde, mais non, mais évidemment, je suis contente, très reconnaissante.
Et comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
Mieux qu'avant, quand même, un petit peu. Je pense que, par exemple, l'adolescence a été tellement chaotique dans mon cas, ça a été tellement brutal que là, la cohabitation est beaucoup plus sereine. On m'a demandé, je sais pas, récemment, on m'a demandé si je me parlais. Et c'était bizarre parce que je ne me parle que quand j'écris. Et le reste du temps, j'évite de me parler. Donc ça va.
Donc on ne vous verra pas dans la rue émettre des jurons tout haut.
Non. Là, je ne me parle pas. En général, quand je fais ça, je les adresse à d'autres.
Vous invectivez.
Si, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte. Je suis un peu énervée des histoires de non-civilité. Là, il y a un côté vraiment tellement individualiste à Paris que ça peut vraiment m'énerver très vite, ouais.
Ouais, je vous rejoins, hélas. C'est l'écriture, Lola Lafont, qui vous donne le plus souvent envie de vous lever. Vous n'êtes pas croyante, mais vous pensez qu'il y a pour chaque personne une chose à faire. Vous, c'est écrire.
Oui, je dis chose parce que sinon je dirais mission et ça serait pas... tout à fait ce que je veux dire. Mais oui, je sais pas, j'ai l'impression que on a tous et toutes quelque chose à accomplir, à arpenter, en fait. Quelque chose, un espace à arpenter où on peut faire quelque chose. Parce que je ne crois pas à l'impuissance. Ça, c'est écrasant. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on a... oui, il y a un terrain où on peut faire quelque
chose. C'est beau, ça, je ne crois pas à l'impuissance.
Ah bon ?
Vous ne croyez pas à l'impuissance ?
Non.
C'est un sentiment important, oui.
Je ne veux pas y croire. Évidemment que je me sens tout à fait, comme vous, comme tout le monde, plutôt écrasée d'impuissance quand j'écoute les infos et que l'Ukraine et que l'Iran, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose sur lequel on a une petite prise.
On va y revenir, mais pour parler d'écriture, lever à 6h, enfin c'est ce que j'ai lu, tes débuts d'écriture à 7h jusqu'à 12h, week-end compris, cette autodiscipline, vous l'avez depuis toujours ?
C'était pas désorganisé avant, c'était... je pouvais m'interrompre plus souvent quand j'écrivais que pour moi. À partir d'un certain moment, j'ai eu envie que ce soit rassemblé, C'est une question de rythme, en fait, pour moi. C'est une question de rythme dans le texte, de rester dans une sorte de rythmique. C'est plus facile aussi quand on le fait tous les jours. C'est un peu comme la danse.
La danse, ce sera une partie de l'émission, puisque c'est très important dans votre vie, Lola Lafont. Mais pour l'écriture, j'ai lu que vous teniez toujours deux journaux d'écriture. Un supposé être un plan, l'autre un questionnement sur ce que vous êtes en train de faire. Donc vous avez trois manuscrits différents.
C'est tellement absurde, ça.
C'est génial.
Non, mais c'est vraiment ridicule, en fait, la fille qui a deux journaux.
Non, c'est impressionnant.
Non, mais je ne les tiens pas tous les jours. Mais c'est vrai que donc il y a le journal cahier, et puis il y a le journal ordi. Et le journal ordi, finalement, il est très important quand j'écris, parce que je peux passer d'un document à l'autre. Donc, on m'a demandé très récemment s'il y avait les mêmes choses dans les deux. Eh bien, pas tout à fait, parce que je crois qu'écrire à la main entraîne d'autres choses que l'écriture sur un ordi. Moi, je suis très, très habituée à l'ordi pour écrire. Donc, du coup, si jamais quelqu'un devait en lire un, s'il vous plaît, lisez plutôt celui qui est sur l'ordi. Et évitez l'autre.
Dans... Quand tu écouteras cette chanson, vous citez « Confession d'un gang de filles » de Joyce Carol Oates, un passage absolument sublime sur l'écriture que vous connaissez par cœur.
Oui, évidemment, là, je ne peux pas vous le citer.
Mais je vais venir à votre rescousse.
Ouais.
Vous voulez ?
Oui,
oui, ok.
Merci.
Bon. Non, j'avais prévu le coup parce que je sais que quand on est comme ça en direct, on ne peut pas...
Je peux à peu près, mais...
Quoi que vous fassiez, que vous le fassiez seul ou non, à quelque moment que vous le fassiez, de quelque façon que vous le fassiez, pour quelque raison que vous le fassiez, quelque mystérieux que soit le but dans lequel vous le fassiez, n'oubliez jamais que sur l'autre plateau de la balance, il y a toujours le néant, la mort, l'oubli, que c'est vous contre l'oubli.
C'est magnifique. Il n'y a rien à ajouter.
C'est sublime.
C'est ça, en fait. C'est ça. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, finalement, parce que, évidemment, j'ai eu des moments de grand découragement quand on écrit. C'est ça, hein. Et puis, même pas seulement pour l'écriture. Mais finalement, et c'est pas du tout une idée morbide, hein, mais c'est ça ou la mort. Enfin, je veux dire, on n'a que ça. On n'a que ça, que ça, que ça. Voilà. Donc, elle le dit de manière sublime. Et aussi, là, on parlait de rythme. Quel rythme?
Ah oui. Bon, j'annonce le sommaire.
Oui.
Pendant qu'on a la chair de poule. Voici le programme jusqu'à 11h. Il sera entre autres question d'isolement, de violence, de danse, de Bowie, de mort, d'amitié, de Festen, de cinéma des années 40, de Thelma et Louise, de Virginia Woolf, évidemment, de Bach et de Ligne droite.
Cache bien ton jeu, je pourrais te faire mal. Reprends-toi un peu. Pleurer, c'est sale, ça fait des yeux plus gros que la ville. Qu'est-ce qu'on y peut? C'est pas facile, non. Combien de fois j'ai retenu mes larmes? Combien de fois pour avoir l'air normal, moins mille mots, un million mots,
Le morceau 1 million de Pommes dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes avec Lola Lafont. Et ce que vous aimeriez changer dans la société, c'est notamment la solitude des personnes âgées et l'isolement. Selon des chiffres de la Caisse d'allocation familiale datant de mai 2022, on estime que 900 000 personnes âgées sont isolées de leur famille ou de leurs amis.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me vrille. Hein. Je ne sais pas, dans mon immeuble, qui est un immeuble assez banal, il y a des personnes, j'aime pas dire des personnes âgées, mais il y a des dames seules que je croise, on discute et tout ça. Et je vois bien que personne, elles sont jamais accompagnées de quiconque. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, dans la rue, je les vois jamais avec quelqu'un. Et puis, c'est cette notion de famille qui est terrible parce que s'il n'y a que la famille, je veux dire, ce qu'on appelle vraiment la famille dans notre société, qui puisse faire cercle, faire amitié autour de quelqu'un de vieux, c'est pas possible, en fait. Moi, j'aimerais qu'il y ait, et dans mon immeuble, il y a, d'ailleurs, une sorte d'échange qui ne dépende pas des liens. Juste parce que on peut prendre 5 minutes de plus que dire bonjour, on peut... C'est tellement rien, mais c'est surtout la notion de famille qui, à mon avis, est vraiment à revoir.
Oui.
C'est tellement réduit, c'est pas assez.
Et problématique. Oui. Beaucoup de gens rencontrent beaucoup de problèmes au sein de ce qu'on appelle la famille.
En plus, et c'est une organisation sociale qu'il faut peut-être un peu questionner comme idéal. En fait, c'est ouais.
Que feriez-vous, Lola Lafont, si vous aviez un pouvoir politique pour justement cette problématique?
Oh là là. Qu'est-ce que je
ferais? Vous avez carte blanche et budget illimité puisque je suis le président et je vous donne tout ce qu'on possède.
Alors déjà, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est faire plein de maisons où des... Alors me demandez pas pourquoi je ne parle que de vieilles dames, mais ça va être comme ça. Où toutes les femmes et leurs amis puissent vieillir ensemble. Parce que ça existe déjà, hein, ces projets-là. Que ça soit quelque chose qui soit ouvert aux enfants, qu'il y ait des salles communes dans tous les immeubles. Ça serait formidable. Dans les habitats partagés, ça existe.
Oui, des salles communes.
Oui, ça c'est vraiment super important qu'on puisse se mélanger. Mais déjà, le truc de séparation de génération, quand vous allez, par exemple, maintenant, vous traversez à Paris des rues comme où il y a beaucoup de cafés le soir, vous ne voyez que des gens qui ont 30 ans, par exemple.
Dans le 11e arrondissement,
exactement,
par exemple.
Mais c'est triste de ne pas aller voir un peu l'altérité, je sais pas, c'est bizarre quoi.
C'est une question de rythme, dans le centre-ville vous disiez ça dans une interview.
Mais oui, c'est vraiment quelque chose de phénoménal dans les grandes villes. Enfin, à Paris, vous regardez le centre, Châtelet, tout ça, il n'y a plus de vieux. Alors j'ai l'impression que c'est vraiment le rythme, que c'est effrayant.
Quelques-uns un peu perdus, hagards.
Ouais, c'est effrayant, ça va trop vite, c'est angoissant de traverser. Toutes ces choses-là, en fait, une ville débarrassée de toute une catégorie d'âge, c'est pas bon signe. On peut pas être dans l'efficacité. Moi, c'est un mot qui me fait très très peur. Ça devient très efficace, ouais. Le centre de Paris.
Oui, j'entends beaucoup d'élan de solidarité dans d'autres villes, évidemment, mais Paris est l'une des plus violentes. Chloé Delhomme, Lola Lafont, dit de vous que vous êtes, je cite, une autrice qui a une conscience politique. Elle tient le rôle de l'auteur dans la cité. Est-ce que vous êtes d'accord?
Chloé, c'est très gentil. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut. Je n'arrive jamais à partager le politique de la vie, en fait. C'est-à-dire que là, on parle justement de ce qui se passe quand on traverse une ville, de ce qu'on peut y voir. Donc ça, c'est très politique. Avoir une histoire d'amour, c'est très politique, tout de suite.
Ah oui?
Ben oui, bien sûr. La façon dont on s'aime, la façon dont on écoute l'autre, tout de suite, on en arrive aux grandes questions. En fait, faire l'amour, c'est très politique.
Ah bon?
Ben, bien sûr. Et le consentement et tout ça. Enfin, je veux dire, politique dans le beau sens. Je parle pas du tout de ce qui m'intéresse. Pas une seconde, c'est-à-dire la politique politicienne, les partis. Ça m'intéresse pas du tout, moi.
Vous voulez dire l'organisation des hommes dans la cité, en société?
Exactement. Les uns, les unes par rapport aux autres, en fait. Comment? Qu'est-ce qu'on partage? Qu'est-ce qui nous oppose? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, en fait?
Lola Lafont, en parlant de qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, vous êtes impliquée dans la lutte contre les violences sexuelles. Vous avez écrit dessus, notamment dans votre premier roman, Une fièvre impossible à négocier. Aussi dans Chavirer, où vous évoquez la pédocriminalité dans le milieu de la danse. Et en 2020, dans Libération, vous avez qualifié la prédation sexuelle de systémique.
Ouais, je sais même pas si c'est un sujet avec lequel j'ai terminé. Il y a eu mon troisième roman aussi. Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce. Et évidemment que je parle de... on écrit de là où on est. Donc, J'ai été socialisée, élevée comme une femme dans ce moment-là. Donc évidemment, ça m'a percutée, la violence sexuelle. C'est banal. Et si, au moment de la parution de mon premier roman, j'avais l'impression d'être très isolée, et puis je me souviens qu'on n'en parlait pas, même quand on parlait de ce roman, on parlait de l'autre versant, c'est-à-dire des black blocs, des squats, ça a été vraiment le sujet. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que c'est un sujet. Bon, ça, c'est pas pour ça que les choses ont beaucoup évolué, mais c'est un sujet. C'est-à-dire qu'il faut imaginer ce que c'était quand il y avait vraiment que le silence et l'isolement, pour le coup, de la parole des femmes. Donc oui, systémique, évidemment, c'est pour ça que la figure du monstre, la figure du violeur, elle n'est pas intéressante, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les histoires se ressemblent terriblement. Terriblement.
On dit de vous souvent que vous écrivez autour des jeunes filles, mais vous rectifiez, vous écrivez sur la façon dont on les voit, ce qui est très différent.
Oui, parce que finalement, ça n'est pas tant des histoires de jeunes filles, enfin, je le vois pas tout à fait comme ça, d'autant plus que Chavirée, c'est l'histoire d'une femme qu'on voit jusqu'à sa cinquantaine, pratiquement.
Plusieurs narrateurs, d'ailleurs.
Plusieurs narrateurs, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un moment, que ce soit dans La Petite Communiste, ou dans Chavirée, ou dans Merci Marie Patti, où ce qui m'intéresse, c'est la façon dont la parole des jeunes femmes va être recouverte de... C'est comme d'une retraduite, en fait, et réécrite tout le temps. Ça, oui, ça m'intéresse.
Let's Dance de David Bowie, que nous avons choisi de passer pour deux raisons. Parce que Bowie fait partie de votre panthéon existentiel, Lola Lafont, ouais. Tout comme la pratique de la danse qui vous a aidé à faire face au monde. Vous dansez depuis vos 4 ans, classique et contemporain, une activité que vous pratiquez religieusement comme l'écriture. Et ça revient souvent dans vos interviews, religieusement, bien que vous ne soyez pas croyante.
Comme quoi, on trouve toujours une façon d'être dans le religieux. Oui, parce que effectivement, moi je ne suis pas anti-religion du tout. Je ne crois pas, mais ça me fascine le rapport que les gens entretiennent avec une croyance, avec quelque chose qui les tient, qu'ils pratiquent en tout cas. Et c'est vrai que pendant longtemps, en tout cas plus à l'adolescence et à la préadolescence, et puis même un peu plus longtemps, la danse c'était vraiment non seulement un langage, mais vraiment quelque chose de, une façon de sublimer, on peut dire, ou je sais pas, mais en tout cas quelque chose qui est, je me vouais. C'est vraiment, je peux pas dire autrement, hein, c'était une vocation dans ce sens-là.
Vous vous imaginiez d'ailleurs danseuse ?
Ouais, je sais pas si c'était très sain. En tout cas, tout ça.
Alors, c'est vrai que quand on vous lit à ce sujet, dans, par exemple, quand tu écouteras cette chanson, vous avez juré de vous vouer à perpétuer l'illusion internationale de la légèreté grâce à la danse, et vous aviez recopié dans un carnet les mots de Théophile Gauthier, qui avait coécrit le livret de votre ballet préféré, Gisèle, « Sculpte, lime, cisaille ». Et moi, ce que j'entends dedans, c'est des blessures, c'est des instruments pointus. Vous dites, Lola Lafont, « Plus ça fait mal, plus je travaille ». Vous dites aussi « Je n'arrive pas à concevoir quelque chose de trop doux pour le corps, il y a une part où je me dis qu'il faut que j'en bave ».
Oui, mais je me soigne, je fais du pilates.
Ah, oui.
Non, mais oui, c'est vrai que pendant très longtemps, et c'est un truc vraiment de danseur, c'est si vous sortez d'un cours et que vous n'êtes pas laminé, vous avez l'impression que vous n'avez pas travaillé. Et donc, je crois que cette éducation-là, elle, malheureusement, je pense qu'elle a rejailli un petit peu sur plein de choses, peut-être même sur l'écriture, c'est-à-dire que je ne sais pas écrire de façon décontractée. C'est un euphémisme.
Oui, je vous crois volontiers. Il y a quelque chose qui me frappe dans ça, c'est... On vient de parler de violence contre le corps des femmes, ce qui apparaît beaucoup dans votre œuvre, même quand il ne s'agit pas de viol ou d'agression sexuelle. C'est par le biais de la danse, c'est par la jeune gymnaste roumaine, je veux dire. C'est toujours la violence qu'on se fait à son corps. Et je me suis dit, la violence faite à son propre corps, en même temps, elle est très différente de celle qu'on nous impose, puisque... On contrôle, c'est l'intérieur de soi et on l'a choisi, cette violence.
Oui et non, je pense, parce que c'est vrai que ce qui est terrible, c'est que les femmes, bon, c'est un peu une généralité, mais tant pis, je ne sais pas comment dire, comme il y a une façon de s'exprimer par le corps, je pense aux troubles alimentaires, c'est comme si ça ne pouvait passer que par, c'est plus un langage de mots, c'est l'anorexie et puis c'est la boulimie et c'est des trucs comme ça qui sont quand même beaucoup plus du côté des femmes que des hommes, hein, je pense, c'est pas tout à fait stupide de dire ça. Et ça, on le choisit pas. C'est-à-dire que c'est un tunnel de solitude et c'est à la fois c'est un langage. Je crois vraiment que l'anorexie est un langage, par exemple, qui exhibe de façon très frontale la douleur et aussi l'impossibilité peut-être de vivre comme il faudrait. Je sais pas, c'est très mystérieux, mais en tout cas, moi j'aimerais tellement quand je vois des jeunes filles un petit peu où je soupçonne quelque chose dans mon entourage comme ça qui commence à dérailler, j'aimerais tellement lui dire, mais écris, tiens ton journal, parle, vas-y, sois très très en colère, va casser des trucs, fais quelque chose, mais ne t'abîme pas. Mais bon, je sais que c'est pas si simple.
Non, j'évoquais évidemment les activités choisies, pas l'anorexie. Je me permets, Lola Lafont, puisque vous l'évoquez et que je l'ai lu dans des articles, donc j'imagine que vous l'avez dit publiquement, vous parlez en connaissance de cause.
Oui, c'est vrai, et c'est la première fois dans Quand tu écouteras cette chanson que j'ai écrit quelques lignes sur l'anorexie. Je n'en avais jamais parlé, et j'ai bien conscience que dans La Petite Communiste, il y a cette gymnaste qui vraiment est affamée, il y a tous ces stigmates. Alors encore une fois, où elle aime sentir l'eau dans son corps vide, etc. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et puis dans Chavirer, le rapport aussi de l'héroïne Cléo à tout ça est très complexe. Et quand je me suis fixée comme tâche d'écrire quelque chose à la première personne du singulier, donc quand tu écouteras cette chanson, ça m'a coûté des semaines, alors que c'est 6 lignes, et que je pense que peut-être personne les remarque particulièrement, mais finalement c'est très dur de dire ce par quoi on est passé adolescente. Et puis encore une fois, là, c'est un truc que j'ai envie de dire à tous les gens qui relativisent MeToo, qui relativisent l'importance de MeToo, et ça a un rapport, la parole entendue. Et ben, il faut imaginer un moment où tout ça se jouait entre soi et soi. Les années 90. Ce moment où vous ne pouviez même pas aller sur un réseau social pour voir que d'autres vivaient la même chose. C'est-à-dire un enfermement qui trouvait d'issue que dans face à face avec un ou une psy. Et pas juste une parole qu'on chope comme ça ailleurs. C'est tellement important, en fait, de savoir qu'on n'est pas seul.
Oui, puis l'effroi suscité par la prise de conscience collective que c'est arrivé à tant
exactement
de gens.
Le chiffre, quoi, le nombre.
Alors là, on va entrer dans un autre sujet par le biais de la musique, mais pas vraiment dans la même ambiance. Extrait de la messe pour les trépassés du compositeur baroque Marc-Antoine Charpentier par l'orchestre Gulbenkian de Lisbonne, dirigé par Michel Corboz, pour illustrer l'une des choses que vous avez choisi d'évoquer dans l'émission Lola Lafont, la mort de votre père.
Mmh. Alors là, c'est... Je m'aperçois que je peux même pas prononcer les mots, en fait, donc, et pourtant il faut. Quand j'ai écrit « Quand tu écouteras cette chanson », j'ai pensé à ce mot-là, les disparus, c'est tellement absurde parce que les gens qu'on aime et qui meurent ne disparaissent pas du tout.
Non.
Au contraire.
Oui, au contraire, parfois même on aimerait leur dire « Eh oh,
oui, parfois
chute.
On aimerait leur dire « Arrête, oui. En fait. » Mon père était mon ami. C'est voilà, une fois que j'ai été adulte, il y a une sorte de glissement vers l'amitié. Vers la connivence, vers, je sais pas, la complicité, beaucoup autour de la littérature, puisque mon père était, c'est un drôle de mot, mais il était 18e-iste. J'aime bien parce qu'on dirait un petit peu une maladie.
Non, spécialiste de Diderot.
Oui, exactement, un spécialiste de Diderot. Et que, même si j'ai fait comme tous les enfants, c'est-à-dire que pendant des années, je ne voulais pas l'entendre parler de tout ça, je me suis rendu compte à quel point ça m'a été précieux d'entendre, d'avoir cet amour du XVIIIe siècle à la maison. Donc, le désespoir de perdre quelqu'un comme ça est un tout petit peu compensé par la chance de l'avoir eu.
Pour votre premier roman, vous lui aviez fait lire Lola Lafont, ouais. Il l'avait trouvé formidable, il l'avait imprimé en 10 exemplaires et il vous a persuadé de l'envoyer à des éditeurs.
Oui, oui, il avait été les imprimer et en fait, il a été catastrophé parce que je l'ai envoyé à 3 éditeurs et que je n'ai pas mis de lettre de recommandation. J'ai mis mon prénom, je n'ai pas mis mon nom de famille et j'ai mis mon numéro de portable. Et quand il l'a su, il était catastrophé. Il m'a dit, mais ça ne va jamais marcher. Et puis donc, comme ça a été publié, il a dû... les 7 exemplaires dont il n'a rien fait, il a écrit en brouillon dessus pendant longtemps.
Et alors, j'étais tombée sur cette anecdote très très drôle où... Je crois que c'est Frédéric Becbédé qui a publié votre premier roman. Il vous a appelé et puis il a dit « Votre roman est absolument formidable et vous pouvez me faire confiance parce que je suis éditeur depuis 5 minutes. »
Exactement. C'est l'appel que j'ai reçu le 3 janvier 2003. Je me rappellerai toujours parce que je me suis dit « Mais qui c'est ce type ?»
Lola Lafont, dans les autres éléments qui vous permettent de faire face au monde, il y a le collectif et de ce fait, l'amitié. Alors, le collectif, dans les années 90, au milieu, vous avez été dans des activités militantes au sein d'organisations anarchistes, féministes et antifascistes.
Oui, alors du coup, ce n'est pas des organisations, parce que chez Libertaire, on s'organise en dehors des organisations.
Je viens de dire anarchiste en plus, c'est vraiment un contresens,
évidemment. Non, mais c'était juste pour faire un mot d'esprit idiot, mais
non.
Pas moi. Hein. Des
associations,
des collectifs,
ouais,
informels,
des collectifs,
comme on dit.
D'accord.
Oui, ça a été très important, ça, pour moi, la découverte de la force du collectif. Et c'est là où je reviens aux politiques, c'est-à-dire que, finalement, l'amitié basée sur des opinions communes, mais surtout un quotidien commun, c'est tellement fort. C'est-à-dire que, finalement, ce qui compte et ce qui est vraiment fondateur, c'est de partager des choses réelles. La façon dont on fait à manger, la façon dont on répartit l'espace, la façon dont on est avec les animaux, avec les enfants. C'est quelque chose de... C'est ça qui va modifier les choses. C'est ça.
Ça renforce un peu la foi en l'humanité qu'on peut facilement perdre.
Ben, on la perd tout le temps, tous les jours un peu, puis on la reprend. Parce que c'est... Enfin, je crois, hein. D'ailleurs, on est en vélo, on se fait houspiller, on la perd, et puis tout de suite après, on croise un sourire, et on la reprend un peu quand même, cette foi. Après, moi, je sais pas si j'ai la foi en l'humanité, parce que c'est presque comme si j'attendais qu'il se passe quelque chose quand je dis ça, mais je veux absolument y croire. Parce que je suis pas du tout cynique, j'ai très très peur du cynisme. C'est trop facile, c'est trop trop facile d'être cynique.
C'est un devoir de ne pas l'être.
Ouais. Ouais.
Gravité, légèreté, mais profondeur dans tout ce qui suit.
Il est très important de savoir distinguer fiction et réalité. Et ça, je crois que ça a toujours été un problème pour toi. Je comprends très bien que tu puisses parfois te fâcher avec papa. Ça m'arrive aussi à moi de temps en temps. Mais ce sont des choses que vous devez régler entre vous. Et raconter des histoires comme tu l'as fait ce soir, même si c'est un récit captivant, et ça je peux t'assurer que ça l'était, c'est peut-être quand même aller un peu trop loin.
1998, Festen du réalisateur danois Thomas Vinterberg qui eut l'idée du film en écoutant la radio avec un témoignage anonyme d'un homme racontant son discours lors du 60e anniversaire de son beau-père. Dans le film, le héros Christian prend la parole au cours du banquet organisé pour les 60 ans de son père. Il va dénoncer pour la première fois les viols dont lui et sa sœur jumelle, décédée un an plus tôt, ont été victimes dans leur enfance. Et là, on entend la mère de Christian qui demande à son fils de corriger ses propos. Plus tard, elle lui demandera de s'excuser auprès de son père. Avoir vu Festen, c'est l'une des choses que vous mettez dans les œuvres qui vous habitent, Lola Lafont.
Ah oui. J'ai un souvenir très très fort de la fois où du moment où je suis allée voir Festen parce que c'était un moment où j'étais encore enfermée en fait dans le silence je pense et en fait voilà comment en fait aussi une fiction peut venir vous percuter tellement fort qu'elle change votre réel. J'étais en larmes, je pense que j'arrivais même pas à vraiment voir le film, je pleurais tout le temps. Mais ce courage dans cette fiction a eu un impact sur moi très 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 fort. Et ce geste, moi je me souviens très bien, il tape sur le verre avec le couteau pour annoncer son discours. Je ne peux pas entendre ça maintenant sans penser à Festen. Donc voilà, je pense que c'est un bon exemple de l'importance du cinéma, de la fiction. Ouais.
Puisque tout le monde essaye de le faire taire, il gêne absolument toute la famille avec son témoignage réel.
Il gêne et effectivement, je pense que quand même, ça n'a pas beaucoup changé. Un viol, une agression sexuelle dans une famille dont on parle dans une famille, c'est une bombe. Ça irradie sur tout le monde. Donc en fait, personne n'a envie que les victimes parlent. Ça, c'est malheureusement quelque chose que j'entends tout le temps, en fait.
J'ai prévenu qu'on passerait de la gravité à la légèreté sans cesse dans cette émission, Lola Lafont. Vous avez aussi choisi le cinéma américain des années 40. Pourquoi ?
Ah oui, ça, c'est quand je suis arrivée en France, en fait, donc j'avais 12 ans et demi, 13 ans. Je venais de Roumanie, je venais vraiment d'un autre monde. Et quelque chose m'a vraiment aidée à m'acclimater en fait à une nouvelle vie. C'est ce cinéma-là où j'allais le week-end, j'allais dans les cinémas du 6e, les vieux cinémas. Quoi. Il s'appelait l'Action Christine, maintenant je sais que c'est Christine 21 ou un truc comme ça.
Ouais.
Tous les, le Champeau,
Cinéclub, ils sortent le sébum, mais ils sont merveilleux.
Voilà, merveilleux. C'est Paris est peut-être une des seules villes au monde où il y a ces cinémas-là. Il faut absolument les garder, absolument. Mmh. Et j'ai découvert tellement de cinéastes. Alors, ce que j'adore dans ce cinéma, je pense je pense à Minelli, mais je pense à Douglas Sirk, les grands mélos, etc. C'est le plaisir des couleurs, pour certains, mélangées à des grands compositeurs de musique de film, des grands acteurs. C'est extrêmement... Il y a un lyrisme qui est... Je sais pas comment dire, ça vous... Vous êtes un petit peu dans une vie augmentée. On parle beaucoup de corps augmenté. Moi, pour moi, ce cinéma, c'est la vie augmentée, quoi. Donc, ouais, c'est important.
Alors là, on passe de la vie à la mort. Je ris nerveusement, bien évidemment, car nous partageons un deuil, Lola Lafont, celui des chiens qu'on a adorés. Ah, et vous avez choisi d'en parler aussi de votre chien mort il y a 3 ans.
Oui, il m'a tellement appris, ce chien, quoi. C'est un chien...
Nougat ?
Nougat, ouais. Alors, c'est pas moi qui l'ai appelé Nougat, je tiens à le dire, c'est un nom un peu stupide. Non, ça lui allait pas
charmant.
Du tout. Non, mais ça lui allait pas. Il était merveilleusement altier, c'était un braque allemand, il aurait dû s'appeler...
Gunther ?
Hermanès, je sais pas, un truc... Il ressemblait plus à ça, quoi. Mais je l'ai trouvé. En fait, c'est-à-dire, il m'a... Voilà, je l'ai recueilli. Et... Il m'a appris beaucoup de choses parce que je l'ai eu toute sa vieillesse. Il a été très malade, il a été très diminué. Et j'ai découvert, au travers de ce corps qui vraiment était abîmé, j'ai découvert à quel point c'était insupportable pour les gens de regarder la dégradation d'un corps. Et à quel point on me conseillait tout le temps, alors qu'il était vieux, mais... pas malade, donc juste diminué, de l'euthanasier. Et je me suis dit, voilà quelque chose qui est insupportable pour les gens, c'est de voir un très 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 vieux chien.
Parce que ça renvoie en fait
ça
à sa propre
l'angoisse
dégradation.
De la mort, etc. Mais c'était brutal, parce que dans la rue, on m'abordait, on me disait, mais pourquoi vous ne l'euthanasiez pas ?
C'est fou.
Oui. Donc voilà, il m'a appris beaucoup de choses. Je me suis découverte plus courageuse que ce que je pensais avec lui, en fait. C'est drôle, hein ? Je pensais que je serais jamais capable de faire ce que j'ai pu faire pour lui, d'accompagner comme ça, ouais. Je pensais que j'étais assez lâche.
Morning news was on. There's nothing stopping. to my feet, feeling that I'd let you down. Wanted to say it slow and perfect, but it all somehow got switched around. Something went off on its own, my dumb automatic chit-chat. It's not what I meant to say at all. There's no way you can attach me to that. Got up to seize the day with my head in my hands, feeling strange when all my thinking got mangled. And I caught myself talking myself off the ceiling. I was suffering more than I let on. The topic, morning news was on. There's nothing stopping me now from saying all the painful parts I'd like.
Le titre Tropic Morning News de The National sur France Inter, toujours en compagnie de Lola Lafont.
L'embellie.
Louise ! Louise ! Où on va là ? J'en sais rien. J'en sais rien. Ferme-la que je réfléchisse. On ne devrait pas aller voir les flics, tu crois pas ? On ferait mieux de le dire à la police.
Dire quoi, Thelma ? Qu'est-ce que tu veux qu'on leur dise aux flics ?
Hein, j'en sais rien, faut qu'on explique ce qui s'est passé.
Et on commence où ?
Toute l'histoire que ce mec voulait me violer.
Mais bon Dieu, il y a plus de 100 personnes qui t'ont vu jouer contre jouer avec ce type dans la salle. Qui va bien pouvoir nous croire ? Je t'en prie, redescends sur terre, Thelma.
1991, chef-d'œuvre, Thelma et Louise de Ridley Scott avec Gina Davis et Suzanne Sarandon. C'est le film que vous recommandez pour être armé dans l'existence. Lola Lafont, on entend le début de la cavale des deux amis puisque Louise a tiré sur le type qui essayait de violer Thelma dans le parking du bar où elle s'était arrêtée.
Et puis cette phrase, qui va bien pouvoir nous croire, quoi. Elle est, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Il y a eu d'autres films sur des couples de femmes, l'amitié amoureuse, parce que dans le film c'est pas très clair, c'est 91 quand même, bon voilà. Mais là, il y a vraiment une sororité et quelque chose de tellement puissant entre elles deux que moi, quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression que c'était la première fois que je voyais ça, vraiment. Et les hommes sont à la fois horribles et en même temps ils sont tenus à l'écart de cette histoire. Parce que c'est elle qui, enfin c'est elles deux, c'est ce duo. Alors évidemment, on peut me dire que ça se termine très mal, etc. Que c'est un film qui n'est pas du tout optimiste. Mais moi, ce que je retiens de l'époque, c'est la puissance de leur amour, quoi, vraiment.
Autre puissance, si on arrive à l'atteindre, c'est celle recommandée par Virginia Woolf dans Une chambre à soi, ouais. Lola Lafont. Qui recommande deux choses pour les femmes qui voudraient avoir une œuvre de fiction.
Oui. Alors, ça, j'ai l'impression que tout le monde l'a lu, mais non, en fait. Mais on devrait vraiment le recommander à toutes les femmes qui entreprennent quelque chose pour elles-mêmes. Que ça soit écrire ou tout à fait autre chose. Je suis très frappée quand je demande autour de moi à des copines, mais à plein de gens, de, encore une fois, l'organisation des appartes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes me disent « Non, mais moi, j'ai un petit coin où je travaille, c'est la chambre à coucher, c'est la cuisine, mais c'est pas grave. » Et évidemment que ça n'est pas grave, mais il faut pouvoir fermer la porte. Il faut pouvoir dire « Là, ici, c'est moi, c'est mon temps, c'est moi, personne n'ouvre cette porte. » Moi, je crois que c'est essentiel, évidemment, si on peut.
Oui. Je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie et vous avez répondu « avoir osé ». Oser quoi ?
Mais tout, ce qui serait terrible en fait, c'est, ça serait de me dire « ça je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas osé ». Enfin évidemment, des fois c'est mieux de ne pas oser parce qu'on a toujours des idées un peu qu'il vaut mieux ne pas mettre en pratique, oui. Évidemment. Mais souvent je me dis, je repense à certains événements, des trucs que j'ai fait qui sont « mais maintenant je me dis « mais comment tu as osé ?» Et je préfère me dire ça.
Vous avez un exemple ou c'est trop intime?
J'ai vraiment fait des trucs absurdes, quoi. Je sais pas, j'y pense là, c'est un truc un peu privé, mais j'ai rejoint quelqu'un qui m'avait jamais rien promis amoureusement. J'ai traversé deux pays pour rejoindre cette personne qui n'était pas au courant. Et quand je suis arrivée, j'ai réalisé que vraiment, la personne n'était pas au courant. C'était carrément avec quelqu'un d'autre, quoi. Mais tant pis.
Aucun regret d'avoir fait
non.
ça. Est-ce que vous vous efforcez d'aller contre une certaine réserve? Vous faites l'effort, vous vous dites « je dois oser, je prends un risque ».
Je pense que je suis partagée entre, justement, j'ai vraiment, parfois je ne réfléchis peut-être pas assez, j'ai fait des choses comme ça, très très spontanées, on va dire. Effectivement, la réserve, moi ça me paraît quelque chose de parfois qui est plutôt un manque de... le moment où on croit qu'on n'est pas légitime, quoi. Donc ça, j'essaye de soigner ça, ouais.
Lola Lafont, vous dites que vous avez raté la ligne droite.
Oh là là, oui.
C'est-à-dire ouais,
mais tellement.
Vous êtes passée par des...
Mais c'est fou. Enfin, je n'ai rien fait tout droit. Rien du tout. Je n'ai pris que des chemins caillouteux, en fait. Je sais pas. Voilà, aujourd'hui... C'est une évidence, là, il y a des livres, c'est fou, il y a mon nom dessus, donc on se dit, c'est simple, je suis autrice, et ça c'est été simple, mais non, parce que je n'ai pas fait d'études de lettres, par exemple, j'ai fait de la danse, j'ai fait de la musique, j'ai vécu en squat, j'ai tout quitté plein de fois, j'ai l'impression que j'ai fait reset plein de fois, et que j'ai tout laissé derrière, j'ai une sorte de politique de la terre brûlée qui est très très forte, je suis capable de tourner le dos et de partir, ça c'est sûr, donc... L'écriture, c'est ce qui fait le lien. Hein. Chez moi, c'est comme des points de suspension. C'est des tirets, en fait, qui font le lien. Mais si ça peut encourager des gens à se dire que c'est pas grave, ça met du temps, c'est pas grave, vous prenez un détour, c'est pas grave, c'est bien les détours.
En même temps, il semble que vous ayez une constance assez admirable. Vous dites la terre brûlée, mais quand on regarde votre parcours, l'écriture, la danse, le collectif, c'est toujours
oui,
là.
Oui, mais ça s'est fait avec tellement de chaos. En fait, vraiment, dans le chaos, j'ai pas du tout un parcours linéaire. Pas du tout.
Voici ce que vous recommandez de beau aux auditeurs. La Chaconne de Bach dans la partita numéro 2 pour violon seul en ré mineur, interprétée ici par la violoniste Hilary Hahn. Un morceau affectionné par votre personnage Betty dans Chavirer, Lola Lafont.
Oui, alors ça c'est fou, je ne m'en souvenais pas.
Oui, bah, moi je l'ai lu il n'y a pas longtemps,
oui,
donc
oui.
C'est plus facile.
J'adore ce morceau et je le relis à la danse parce qu'il y a un merveilleux ballet de William Forsythe sur la Chaconne. C'est tellement beau parce qu'il y a des coups d'archet comme ça qui sont on dirait presque que ça va être faux, évidemment ça ne l'est jamais, et il y a une violence dans ce morceau qui est très moderne, bon enfin c'est Bach, et puis il y a une rigueur, c'est à la fois carré et complètement éclaté, c'est ça que j'adore.
Vous parlez en écrivant, Lola Lafont, mais est-ce que vous écoutez de la musique en écrivant?
Non, jamais.
Impossible.
Jamais. Non, impossible. Impossible. Non.
Vous êtes de l'équipe de Flaubert.
Ah, ouais, bah oui.
Bien. Non, mais des gens qui lisent à voix haute.
Je lis à voix haute, mais pas lui, il lisait après. Moi, je lis pendant que j'écris. Ouais. Tout le temps, je lis. Non, je parle pendant que j'écris. Donc, tout ce que j'écris, je le dis. C'est ça, je ne dirais pas que c'est ça la musique, mais le son... Ce sont les mots, vraiment, comment ils se cognent, comment ils se suivent, c'est oui.
Ça se sent, cette musicalité. On arrive à l'engagement de fin d'émission. Et alors, moi, j'adore cet engagement parce que vous êtes condamné immédiatement. Vous avez dit être moins inquiète, moins angoissée, mais ça ne marchera pas.
Voilà, je me suis dit, voilà, ça, c'est une tâche importante parce que, effectivement, je ne suis pas d'une sérénité remarquable dans la vie.
Euphémisme aussi.
Euphémisme total. Je pense aux gens qui me connaissent et qui vont écouter ça et qui vont lever les yeux au ciel. Et donc, je me suis dit, oui, c'est bien, je devrais tendre vers ça, mais évidemment, ça va pas marcher du tout.
Qu'est-ce que vous allez essayer pour tendre vers ça? Et est-ce que quand on pratique beaucoup d'activités physiques, normalement, on ne sécrète pas d'endorphines?
Ah ouais, il paraît, ouais. J'attends.
Quel va être votre prochain pas pour aller vers cette sérénité impossible?
Mais je ne sais pas, je suis tout à fait évidemment incapable, rien que l'idée d'écouter des petits oiseaux ou de l'eau qui coule, enfin je ne sais pas, tous les trucs qu'on peut vous conseiller, ça me rendrait dingue en fait, ça m'angoisserait sûrement aussi. Donc non, je pense que j'accepte le fait, oui, quand les gens me disent « mais très angoissée », je fais « bah oui, voilà, et alors ?»
Meilleure réponse.
Bah ouais.
Bah merci beaucoup Lola Lafond d'être venue dans cette émission avec autant de sincérité.
Et merci à vous pour les questions.
Je rappelle le titre de votre dernier livre, « Quand tu écouteras cette chanson », paru cet été aux éditions Stock et couronné par le prix Décembre.
Et le prix des Inrocks,
autant pour moi. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez l'allant d'une salade perchiste. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.